Une vie, une œuvre, Roland Petit, 1924, Villemomble, 2011, Genève. À l'âge de 9 ans, Roland Petit entre à l'école de danse de l'Opéra de Paris. 1945, il crée avec le soutien de son père les ballets des Champs-Élysées où naîtra Le jeune homme et la mort. Il s'appuie sur des artistes comme Jacques Prévert, Christian Bérard, Picasso, Brassailles, Joseph Cosma. 1949, production de Carmen à Londres et René Jeanmaire devient Zizi. Il part pour Hollywood, mais Carmen demeure l'œuvre qu'il remonte sans cesse de Copenhague à Johannesburg. C'est au Casino de Paris que sont données la revue et Zizi, je t'aime. 1972, en lien avec Gaston Defer, les ballets de Marseille sont créés. 9 ans plus tard, ils deviennent Ballet National de Marseille, Roland Petit, alors que Carmen entre au répertoire de l'American Ballet Theatre, alors sous la direction de Mikhail Baryshnikov. Il aura porté sa conception de la chorégraphie dans le monde entier. Sandrine Joran signe, avec Ghislaine David, Une vie, une œuvre, Roland Petit.
J'ai toujours voulu, enfin depuis le début et de plus en plus, essayer d'arriver à faire une balance dans un ballet. C'est-à-dire, je ne trouve pas qu'il faille avoir des danseurs qui dansent dans des rideaux de velours noir sur une musique de Chopin. Alors, quelquefois, on m'a reproché, on m'a dit, mais il y a trop de décors, il y a trop de mise en scène, il y a trop de... Mais peut-être, je n'étais pas exactement sur la balance, ma balance penchait peut-être trop d'un certain côté, j'étais peut-être dans le tort à ce moment-là, mais ce que je voudrais faire, et ce que j'ai réussi quelquefois, je l'espère, c'est d'être juste dans le milieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un rideau de théâtre se lève, on est au théâtre, on n'est pas à l'église, je ne sais pas, on fait du théâtre, c'est aussi une façon d'ailleurs de prêcher, une façon de se faire aimer.
Roland Petit, j'ai dansé sur les flots.
Deux choses qui caractérisent complètement Roland dans son travail, c'est raconter une histoire, une manière de synthétiser, comme il l'a fait pour Carmen, d'arriver à l'essentiel, où il y a juste l'essentiel des personnages et l'essentiel de la musique. Notre-Dame de Paris aussi, un autre exemple d'un énorme roman ramassé en un ballet d'une soirée. C'est vraiment l'Arlésienne, enfin c'est le grand spécialiste de ce genre de choses-là. Bon, il a recommencé avec Proust ensuite, et son autre grande spécialité, ce sont les pattes d'œufs.
De tour en dedans, de tour en dehors, 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 trois tours en dedans, jeté, fini quatrième, deux pirouettes en dehors.
C'est un style classique, mais pas athlétique. C'est-à-dire que ça n'est pas le grand style classique de la fin du 19e siècle à la petite pas, avec forcément 32 fouettés, avec forcément un manège démentiel pour le garçon, avec des portées à la russe, avec des machins complètement hallucinants techniquement.
Gérard Manoni.
C'est pas ça. C'est l'utilisation de l'école française pure et dure, beaucoup de travail de bas de jambe, beaucoup de travail de pointe, du travail extrêmement raffiné, extrêmement précis. C'est le langage classique qui n'est pas encore, disons, coloré de travail de musical dans pas mal de ballets, mais qui n'est pas du tout encore la transformation que vont faire subir au langage classique des gens comme Forsyth, puis ou même comme Preljokaj ou Kilian, ou des gens comme ça, qui vont le pousser au-delà, qui vont vraiment le faire exploser, le pousser au-delà. Roland Petit reste dans le langage des pas de l'école française pure et dure, utilisé de façon absolument géniale, originale, personnelle. Hein. Évidemment, le pas de deux de la chambre dans Carmen, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein. Bon, on fume une cigarette en scène, il y a une espèce de... C'est tout à fait différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent.
La danse entre tous les arts est sans doute le plus heureux et le plus désespéré, car ce qu'elle crée meurt aussitôt. Mais cette création recommence. Sur l'ombre à peine effacée du mouvement évanoui, se dessine un autre mouvement. Cette incessante pulsation naît pour mourir et se fond dans l'espace pour y retracer de nouveaux signes. Comment actionner ce mouvement? Comment le faire vivre? Comment dire et faire éprouver quelque chose à travers lui? Comment le rythmer pour qu'il devienne danse? Toutes ces questions sont celles que se pose le chorégraphe. L'espace pur est sa toile, les danseurs sont les couleurs, et de ces couleurs, le mouvement sera le mariage. La totalité du tableau s'appelle un ballet. Roland Petit.
Mon père avait un restaurant, une brasserie avec un orchestre à Villemomble, sous le métro. Et quand je suis né, paraît-il, l'orchestre a joué « L'aîné, le divin enfant ». Ça a commencé comme ça, j'ai déjà eu de la musique dans l'oreille tout de suite. Et puis alors après ça, j'ai entendu le pizzicati de Sylvia tous les jours. On jouait ça, c'était l'air favori de la clientèle, on jouait ça tous les jours à l'heure du thé. J'en prenais de la bière d'ailleurs à l'heure du thé dans la brasserie. Et on jouait le pizzicati de Sylvia et j'ai entendu ça tellement, je dansais dessus. Quelquefois mon père disait au client, vous voulez voir danser mon fils? Il disait, allez Roland, danse. Et alors on jouait tati tati tata tati tata pam pam. Ça a commencé comme ça. Après je me dis, c'est pas possible, je dois avoir quelqu'un dans la famille qui a dû danser ou faire du théâtre avant. J'ai bien cherché et un jour maman m'a avoué. J'avais fouillé dans une pile de photographies, j'avais retrouvé dans une pile de photographies des photos d'acrobates, de fils de féristes. Et maman m'a avoué que c'était des familles, de la famille du côté de son père en Italie, puisque maman est italienne, enfin ses parents étaient italiens naturalisés français, et que nous avions, paraît-il, dans la famille, du côté du père de ma mère, des équilibristes, des gens qui dansaient sur une corde raide.
Il avait 12 ans lorsqu'il a été invité à une émission de radio sur Radio Cité, et Jacques Canetti, et où il a rencontré, et là il y avait Cocteau et Charles Trenet. Il s'est lié d'amitié immédiatement avec Cocteau, qui lui a fait rencontrer ensuite Bérard, Jean Marais, et à partir de ça, il a connu toute une sorte d'intelligentsia parisienne et française, mais il avait 12 ans au départ. Donc il s'est attaché à ces gens-là. Pour le restant de sa carrière et de sa vie, et ça l'a mis en contact direct avec des créateurs, des peintres, des décorateurs, des poètes, et il a donc toujours travaillé ensuite dans cet esprit-là. Et il a tout de suite fait appel, après ça, très très tôt, ses premiers ballets, il a fait appel à Marie Laurencin, à Picasso. Alors, il était gonflé à bloc, il avait, je sais pas, 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Ses premiers ballets sur Guernica, va sonner chez Picasso, et Picasso lui ouvre, il lui dit, voilà, je suis danseur, chorégraphe. Comme il était jeune et très beau gosse, et il avait beaucoup de bagou, il plaisait tout de suite à tout le monde. Et il dit, voilà, je fais un ballet sur Guernica, je voudrais faire les costumes. Alors, Picasso lui dit, bon, voilà, écoute, je sais pas ce qu'il lui a dit, tu mets des pantalons, je sais pas comment, une chemise blanche, un béret, voilà, très bien, parfait. Comme ça, il a pu mettre sur son programme costume de Picasso.
Cocteau était miraculeux, c'était un homme extraordinaire, généreux. Il avait une cour autour de lui, dont je faisais partie, de jeunes gens, de jeunes femmes, d'acteurs, de metteurs en scène, de journalistes, de tout. Tous les artistes attendaient qu'ils se lèvent le matin. Alors on attendait, on était dans l'entrée de l'appartement, et lui sortait de sa chambre, de sa salle de bain, avec son peignoir blanc, et bonjour les enfants, et il allait s'habiller, on le voyait enfiler son pantalon, puis ensuite sa veste, et puis continuer à parler à tout le monde. Et il rendait service à tout le monde. Pour l'un, c'était une préface, pour l'autre, c'était un portrait, pour l'autre, c'était... Il a été vraiment génial.
Paris était une espèce de petit monde clos, où tout ce qui était artistique était resserré. Les gens étaient resserrés sur eux-mêmes, entre eux, se voyaient beaucoup, et lui, il adorait toutes les sortes de spectacles, donc il allait prendre ses bains de soleil sur les toits de la Comédie Française, et il se liait avec toute la génération de jeunes acteurs, de metteurs en scène, de peintres, de décorateurs. À l'opéra, c'était pareil. Et donc, il était tout le temps fourré au cinéma. Il adorait le cinéma américain et les comédies musicales en particulier, ce qui a eu ensuite une importance considérable dans sa création, puisque c'est là où il a pris le goût du musical, notamment.
J'ai beaucoup appris avec Serge Liffard d'abord, qui m'a enseigné les méthodes que lui avaient enseigné Balanchine, Massine et tous les grands de chez Diaghilev. Et puis j'ai beaucoup appris avec Janine Chara, avec qui j'ai commencé à faire des récitals quand j'avais 16 ans ou 17 ans, et qui était une enfant tellement, tellement en avance et tellement douée que j'ai voulu en faire autant. Enfin, j'ai voulu prouver qu'un garçon faisait aussi bien qu'une fille. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec toute une bande de grands artistes avec qui j'ai travaillé au moment où je faisais le début des ballets des Champs-Élysées, mes récitals d'ailleurs avant, ils m'avaient déjà aidé. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris avec Coquenot, qui avait l'habitude de travailler avec Diaghilev et qui connaît tous les trucs du ballet. Et avec mon cœur, j'ai le plus appris avec Christian Bérard, qui est l'homme le plus sensible, ayant le plus de goût, le plus de talent, le plus grand artiste, je crois, que j'ai rencontré vraiment quant au ballet et au théâtre.
Pour aucun des danseurs de cette époque, à part Serge Liffard, mais pour tous les autres, c'est une période de gros travail, toute une génération qui va être la nouvelle danse française après la guerre, toute une génération qui travaille dans deux endroits, dans les studios de la salle Pleyel et au studio Wacker. Ils travaillent avec les grands professeurs russes émigrés, qui ont été les grandes stars du Bolchoï et du Kirov et qui ont quitté la Russie. Ceux qui sont à l'opéra prennent les cours de l'opéra et vont ensuite travailler, qui avec Madame Rouzane ou Madame Pryorajenska au studio Wacker, qui avec Gniaziev, je crois que c'est à Pleyel, et professeur absolument, absolument fabuleux. Et c'est toute la bande, c'est vraiment un clan. Hein. Il y a Roland Petit, il y a Béjart, il y a Yvette Chauviré, Nina Viroubova, Ozella Hightower, Leslie Caron, même Brigitte Bardot. Vous voyez, à l'époque au studio Wacker aussi, hein. Elle était danseuse jeune, elle travaillait aussi au studio Wacker avec ses professeurs. Là. Donc ce petit monde vit très resserré sur lui-même, très solidaire, et finalement il danse.
Dans les coulisses du théâtre des Champs-Élysées, toutes bruissantes du mouvement des danseurs qui vont entrer en scène, nous avançons doucement, précautionneusement, au milieu des machinistes et des accessoires. Le grand chariot du décor de Christian Bérard pour le ballet des forains d'Henri Sauguet nous barre le passage. Contournons-le. Danseurs et ballerines se pressent autour de notre micro, le grand manteau couvrant les maillots collants, les robes légères de tulle ou de gaze. Dans quelques instants, le rideau va se lever, et déjà dans la salle, le public entend les premières mesures du ballet.
C'est une petite troupe de cirque un peu minable qui arrive avec sa charrette, qui répète. Bon, avec beaucoup de. Alors, il y a. Je sais plus ce qu'il y a. Il y a une danseuse classique, il y a un clown, il y a un magicien, il y a des sorciamoises. Enfin, il y a toute une espèce de figure habituelle, d'acrobate, enfin tout ça. Et ils répètent et ils donnent leur spectacle. Ils montent leur spectacle, ils dansent, vraiment ils se donnent beaucoup beaucoup de mal, et puis il y a des gens qui regardent tout autour, et puis quand ils font la quête, personne ne donne un centime, les gens s'en vont. Et ils remontent tout leur matériel, leurs costumes, dans leur charrette, et ils repartent. Alors il y avait Nina Viroubova, c'était une compagnie extrêmement jeune, et c'est un ballet très important parce que finalement, il y a déjà tout Roland dedans. C'est-à-dire que c'est de la technique classique, mais c'est aussi du spectacle à côté, avec déjà un peu de musical dedans. Et puis une sorte de message en même temps, de conception. Il disait que les forains, c'était lui d'ailleurs, que c'était vraiment leur vie à eux. Et c'est un ballet qui a eu énormément de succès et qui a beaucoup contribué au départ à rendre Roland célèbre dans les premiers spectacles qu'il organisait. Juste avant les ballets des Champs-Élysées.
Après les forains, il y a un rendez-vous. Et là aussi, il y a des artistes très connus qui y participent.
Alors, le rendez-vous, musique de Cosma, décor de Brassailles, des photos de Brassailles utilisées pour représenter des coins de Paris. Roland était vraiment gonflé à bloc parce qu'il n'hésitait pas. Il a téléphoné à Prévert pour lui dire, voilà, je voudrais un argument de ballet. et Prévert lui a sorti cette histoire, mais il était déjà suffisamment convaincant et relativement suffisamment connu pour que des gens comme Prévert ou Cosma acceptent, ou Brassai acceptent de collaborer avec lui. Et c'est un ballet très sombre en même temps, c'est un ballet sur Paris en quelque sorte, qui se passe la nuit, et c'est déjà un peu le thème du Jeune homme et la mort, puisque c'est encore une rencontre avec la mort. C'est assez fréquent dans les ballets de Roland, ce rapport avec la mort.
En 1946, sur un livret de Jean Cocteau, Roland Petit crée Le jeune homme et la mort. Jean Babilet et Nathalie Philippard en sont les interprètes. Spectacle hautement expressif et théâtral qui devient rapidement une œuvre phare. Le jeune homme et la mort sera repris par Nouraïef, Baryshnikov et Nicolas Lurich en 1992.
Ce jeune homme, il est dans sa chambre et il attend. Il attend un rendez-vous et un rendez-vous qui ne vient pas. Quel est ce rendez-vous? On ne sait pas tellement. Et il attend, et rien ne vient. Mais quand son rendez-vous arrive, c'est une jeune femme qui prend l'apparence d'une jeune femme, magnifique, aux couleurs extrêmement vives. Elle a une tunique qui est jaune. Et quand elle arrive, en fait, elle est comme un chat avec lui. Elle joue. Mais du coup, elle le tiraille, elle l'emmène à droite, elle l'emmène à gauche. Elle n'est pas du tout conciliante, j'ai envie de dire. C'est une véritable identité et ce rendez-vous n'est pas celui qui était attendu. Donc elle le maltraite. Et elle s'en va. Et elle le laisse seul. Avec cette frustration du rendez-vous échappé, qui n'a pas été celui qui a été attendu. Ce jeune homme est là, il l'attend, il est complètement désespéré, il ne voit qu'une seule issue, c'est lui aussi partir. Il se dirige vers un fil qui est là, il se pend. Les murs se lèvent et cette jeune femme rentre avec un nouveau visage. Elle a les traits de la mort et elle lui passe son masque et tous les deux vont sur les toits de Paris et s'en vont. Ce que j'ai toujours apprécié, en fait, dans cette pièce de Roland, c'est aussi sa portée symbolique. C'est que ce jeune homme, concrètement, il est là et il est matière humaine. Ça, on le sait. C'est un jeune homme qui est là. Mais elle, qui est-elle réellement? Est-ce que c'est un véritable rendez-vous? Est-ce que c'est un fantasme? Est-elle une femme? Est-elle la mort? Et donc, vous voyez tout de suite les lectures très, très différentes qu'on peut avoir à différentes époques. Dans les années 40, je ne sais pas exactement quelle image on pouvait avoir. Mais aujourd'hui, on pense tout de suite à des problèmes que les jeunes gens pourraient avoir. Je ne sais pas, elle pourrait être un être symbolique d'une maladie, par exemple, qui va emporter ce jeune homme.
En 1945, Roland Petit quitte l'Opéra de Paris. Ils ont sa première compagnie, le Ballet des Champs-Élysées. Il rompt avec ses collaborateurs en 1948 et crée les Ballets de Paris, dont il en sera le maître absolu.
Je me suis trouvé avec un billet d'avion pour aller à Londres. Un billet d'avion, je devais prendre l'avion, je crois, le lundi. Je me suis trouvé le dimanche dans un restaurant à côté d'un ami que je connaissais d'Italie, qui était le prince Ruspoli, qui me dit « Bonjour Roland, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je lui dis « J'ai essayé de remonter une compagnie, parce que je suis parti des Belles Champs-Élysées, j'ai essayé de remonter une compagnie, mais c'est très difficile, c'est très très difficile de trouver l'argent, c'est très coûteux, etc. Et je vais probablement aller danser à Londres. » Alors il me dit « Mais pourquoi tu ne montes pas ta compagnie ?» Je lui dis « Mais parce que ça me coûte très cher, j'ai pas l'argent. » Alors il m'a tout de suite dit « De combien as-tu besoin ?» Eh bien, je te le donne. Enfin, je te le donne, je te le prête. Et il me l'a prêté. Je n'ai fait ni une ni deux. J'ai refoncé dans tous les affres de la préparation d'une compagnie de ballet. J'ai engagé tous mes danseurs. J'avais avec moi Jean Maire, Colette Marchand, Skouratov, Briansky, Viroubova, qui était venu se joindre à nous un peu plus tard. Il y avait Janine Chara d'ailleurs avec nous encore cette fois-ci. Ça a très très bien marché. Enfin, on a recommencé au Théâtre Marigny, c'était en 48, et j'ai appelé ça les ballets de Paris. Et je me suis dépêché de beaucoup travailler, de rendre au prince Ruspoli l'argent qu'il m'avait prêté, ça m'a pris tout de même pas mal de temps. On a fait une tournée en Allemagne, et pendant cette tournée en Allemagne, un beau jour, enfin tout le long du voyage, je voyais dans telle ville, demain Carmen, hier Carmen, demain Carmen. Et je me suis dit tout de même, il faut que j'entende cette musique, Carmen, enfin. Alors je suis allé à l'opéra, je suis entré dans la salle, frais comme une rose, ravi comme, j'étais content comme un pinson, puis j'ai entendu un peu de musique française, c'est merveilleux, en Allemagne, d'entendre la musique française, ça fait plaisir. Et je suis assis dans mon fauteuil et tout d'un coup j'ai entendu l'ouverture, j'ai eu l'impression d'entendre la Marseillaise, j'ai eu l'impression, enfin c'était pas tellement longtemps après la guerre, j'ai eu l'impression que tout le monde criait vive la France dans la salle, enfin j'étais tellement content, fou de joie, je me suis levé éclatant en sanglots en disant ça y est, j'ai trouvé le ballet, je vais faire ce ballet, je sais pas, enfin je suis sorti du théâtre. J'ai calmé mes nerfs dehors, j'ai fait quelques pirouettes sur le devant du théâtre, et puis je suis remonté, on m'a dit « Non, non, monsieur, le premier acte est commencé, vous n'entrez pas, n'allez pas question. » Ce qui fait que je n'ai jamais vu Carmen. Je suis allé au consulat, j'aurais dit « Il faut absolument que vous me trouviez le livre de Mérimée. » On m'a trouvé le livre de Mérimée tout de suite. Dans la nuit, j'ai découpé le ballet. Je leur avais demandé la partition que j'ai eue le surlendemain, je crois, la partition de piano. Et en 48 heures, enfin, j'avais découpé mon ballet avec la musique, avec tout. J'avais fait mon ballet, je me suis dit « Ça va être une catastrophe, ça va être épouvantable. Tant pis, j'ai envie de le faire, je le fais. »
Carmen, c'est quand même l'énorme succès de Roland, ce qui le rend célèbre dans le monde entier, qui a été vraiment un triomphe absolument inimaginable. Et à Londres d'abord, puis à Paris, bon, ça a été un petit peu, comme d'habitude, accueilli de façon un peu plus fraîche, mais ça s'est devenu très vite un grand classique. Et tout ça accroché à la personne de Zizi. Zizi, qui était la disciple d'Yvette Chauviré, était considérée comme la petite merveille de la danse classique, de l'école française, de danse classique, la plus pure, ce qu'elle est toujours restée d'ailleurs. Et donc, c'était elle qui était la star des compagnies de Roland. Et à l'époque, les compagnies vivaient sur les recettes. Bon. Et la compagnie de Roland était en tournée en Allemagne quand Zizi a entendu dire que Roland allait faire un ballet sur Carmen. Alors, elle s'est renseignée un petit peu plus et elle a appris que Roland avait l'intention de le faire pour Colette Marchand. Alors, Zizi, telle qu'en elle-même, elle avait trouvé Roland, lui a dit « Voilà, tu fais un ballet sur Carmen, Carmen c'est moi, si c'est pas moi, je quitte la compagnie. » Et comme si Zizi quittait la compagnie, il n'y avait plus qu'à annuler la tournée en Allemagne. S'il n'y aurait pas eu de public. Donc, Roland a fait Carmen sur elle. Non sans difficulté, parce qu'il a fait un ballet extrêmement difficile, que Zizi a assumé de façon sublime, parce qu'on n'a jamais revu danser Carmen aussi bien qu'elle. Personne n'est vraiment arrivé à le danser avec la même finesse, la même précision. Et même les plus grandes étoiles de l'opéra, qui ont été souvent magnifiques, mais ce qu'a fait Zizi, c'était resté absolument unique en la matière, et il a cru qu'elle n'y arriverait pas. Il avait, à l'époque, c'était tellement compliqué, tellement difficile à danser, qu'il a dit à Ninette de Valois, qui était la directrice du futur Royal Ballet, « Je suis en train de faire mon chef-d'œuvre, et elle ne va pas y arriver. » Et effectivement, il raconte que le soir de la première, dans la dernière scène finale, qui est extrêmement violente, où il la secoue dans tous les sens, il lui flanque théoriquement des gifles, enfin avant de l'assassiner, avant de la tuer, et tout à coup il dit j'y arrive plus. Et pour la secouer, il a flanqué des vrais gifles. Elle est arrivée au bout du ballet comme ça, dit-il.
Après ce Carmen à Londres qui a tellement bien marché, nous sommes restés 4 mois à Londres, nous sommes venus à Paris, nous sommes restés 4 mois à Paris, ou 5 mois je crois. Ça a très bien marché, à part le papier de M. Mauriac qui nous a... Nous sommes partis et nous avons débarqué à New York devant ce théâtre tout illuminé avec des grandes photos de Colette Marchand avec ses plumes de l'œuf à la coque, avec Jean Maire sur toutes les autres photos en corset dans des poses un peu érotiques de Carmen. Enfin, on avait agrandi la chose, on avait multiplié le côté, comme les Américains appellent, sexy. Alors c'était sexy, vraiment, on avait du sexy. Il y avait que des dames en corset devant la porte du théâtre. Les gens se sont demandé ce que c'était, tout le monde est venu, on a eu une première sensationnelle. Et on a fait 4 mois et demi sur Broadway dans ce grand théâtre avec un seul programme. Et quand Jean Maire se promenait dans la rue sur Times Square ou dans la rue à New York, enfin, les gens l'appelaient Carmen. Ils disaient, c'est Carmen, regarde Carmen.
La croqueuse de diamants.
Le phénomène Zizi, c'est un phénomène assez particulier. Nourrieff est un peu comme ça aussi. C'est un phénomène assez particulier. Tout se passe en scène. Avec eux, devant le public. Et Roland disait toujours, avec elle, je ne sais jamais exactement ce qui va se passer. Elle répète, elle travaille, elle sait tout très bien. Mais à l'instant où elle franchit les pendrillons et arrive en scène, ça explose complètement. Il se passe quelque chose de fabuleux qui ne se passe quasiment jamais en répétition. Et donc Roland était très inspiré par elle. Et elle s'emparait de ce qu'il faisait et elle en faisait quelque chose à elle. Lui, il avait des idées, il créait, bon, il y avait des chansons, alors après ça, c'est tout de suite... Après ça, ils ont continué, hein, comme à leur début, avec les meilleurs, c'est-à-dire elle a commencé à chanter des chansons de Guy Béard, de Gainsbourg, avant des costumes de Saint-Laurent. C'était aussi encore un autre petit clan, hein. C'était plus le clan Bérard, Cocteau, etc., mais c'était l'équivalent quelques années plus tard. C'était vraiment... elle a inspiré Saint-Laurent comme elle a inspiré Gainsbourg, qui a fait vraiment des chansons pour elle, spécialement.
On flirtait tous les deux quand on était enfants, parce qu'on était à l'école ensemble, nous sommes rentrés la même année, on avait tous les deux 9 ans et demi. Et elle avait un faible pour moi, et moi j'étais plutôt assez snob avec elle. Enfin, moi je courais un peu partout, je regardais déjà un peu partout, je n'avais pas du tout envie d'être fiancé avec une petite fille, ou rien du tout. Je dois dire que c'est grâce au théâtre et à la création... On était toujours, on se disputait beaucoup, ce qui est déjà une preuve d'affection.
C'est bon signe.
Et c'est après avoir fait, là je vais en avant, c'est après avoir fait Carmen, nous nous sommes fâchés, et elle est partie de son côté, moi du mien. Et elle pouvait pas vivre sans moi, et moi je pouvais pas vivre sans elle. Alors moi je la regardais à la télévision, à ce moment-là j'étais en Amérique, elle faisait des émissions de télévision toutes les semaines, elle a fait une série de shows à la télé, moi je la regardais, et puis elle demandait à tout le monde de mes nouvelles pour demander où j'étais, ce que je faisais, etc. Et on s'ennuyait beaucoup l'un et l'autre. Et le jour où nous nous sommes retrouvés, on s'est tout de suite mariés, et on savait que c'était pour la vie. Alors, le truc en plume, nous sommes allés, Zizi et moi, faire l'ouverture d'un théâtre à Londres qui s'appelle le Stall. Il y avait un grand Stall avant, nous avons joué, de 4000 places ou quelque chose comme ça. Ils ont, dans cet immeuble, fait du business, je sais pas quoi, ils ont gardé une partie qui était un théâtre de 1500 places, ou beaucoup plus petit. Et nous avons fait l'ouverture. Et Zizi avait entendu une musique de Jean Constantin, que Jean Constantin lui avait apportée, qui était ta-ti-ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta-ti-ta-ta. Bon, elle me dit, moi je veux faire un numéro là-dessus. Je lui dis, écoute, les paroles sont pas possibles. Il a fait une chanson avec quand on s'est dit, qu'on s'aime d'amour. Enfin, je veux dire, c'est sans intérêt, c'est ordinaire, c'est moche. Moi, je fais pas de numéro là-dessus. On avait un ami qui était Bernard Dimet, qui était un poète. Alors Zizi dit à Dimet, mais Roland veut faire un truc avec des éventails, un truc en plume. Dimet dit, c'est ça la chanson, le truc en plume.
Mon truc en plume, plume de oiseaux, de animaux. Mon truc en plume, c'est très malin, rien dans les mains, tout dans le cou droit.
En 1951, Roland Petit est invité avec sa troupe à Hollywood. Il découvre les grands studios californiens et réalise plusieurs chorégraphies.
Je suis reparti en Amérique où j'ai fait les chorégraphies de Cendrillon avec Leslie Caron, La Pantoufle de Verre et Papa Longue Jambe avec Fred Astaire. Et ça, c'est une expérience merveilleuse. Là, j'ai beaucoup appris avec lui parce qu'il a une façon de travailler que je ne connaissais pas et ça m'a appris beaucoup de choses. C'est un être extraordinaire, c'est un grand, grand danseur et c'est un grand monsieur. J'ai été tellement content de le connaître et de travailler avec lui. Alors, ensuite, après ça, je suis rentré à Paris avec Jean Maire et puis je viens de rouvrir ma saison au Théâtre des Champs-Élysées. Je continue à la Porte Saint-Martin, je prépare Folie Bergère avec Henri Decoing et Jean Maire une fois de plus et Eddie Constantine en sont les vedettes.
Quel a été le moment le plus émouvant pour vous de ce tour de chant de l'Alhambra?
Oh, le soir de la première, allez.
Oui, oui. Est-ce que Roland Petit était là?
Oui, j'étais là. Moi, j'avais encore plus le
trac. Oui.
Je crois que j'avais encore plus le trac qu'elle, moi.
Alors,
parce qu'elle, elle savait plus très bien où elle en était.
Non, puis comme... on soulage, vous comprenez, sur la scène.
Elle piaffait, elle était comme le cheval oui. qui
oui.
Tandis que toi, tu étais là dans ton coin.
Oui, tandis que moi, j'étais là dans le coin, derrière, j'avais un de ces tracs. Je ne pouvais rien faire, moi.
Mais dites-moi, c'est pas... Vous n'êtes pas un très bon supporter, alors, en l'occurrence.
Oh, si.
Ah, mais je ne le montrais pas. Oh, je ne le montrais pas, je disais, oh, c'est formidable. Mais non, c'est, ça valait très bien, tout ça. Ça... Mais,
ah, ça si, disait Jean-Mère. Il a très bien dit ça, je veux dire.
Eleonora Bagnatou, danseuse étoile de l'Opéra de Paris.
Le couple était formidable, il s'aimait à la folie, ça c'était une évidence. Elle le suivait toujours et lui, il ne pouvait pas vivre sans elle. C'est extraordinaire de voir ça. Parce que ça transmet aussi dans les ballets, comme ils l'ont dansé ensemble, Carmen. Quand il nous expliquait quelque chose ensemble, tu comprenais immédiatement. Et donc Zizi venait en studio, elle nous aidait. Mais surtout, elle restait toujours derrière lui, discrète. Elle le laissait toujours faire. Et puis ensuite, en douceur, elle venait nous dire des choses gentilles pour nous remettre en confiance et vraiment ce qu'elle ressentait quand elle dansait. La difficulté, elle le savait, lui non.
Roland Petit, il n'y a pas plusieurs styles, mais disons qu'il y a plusieurs approches. De la chorégraphie, plusieurs approches du spectacle.
Gérard Manoni.
Tour en Galila, c'est un cas très particulier parce que c'est sur une partition contemporaine de Messiaen, une grande symphonie, et il a donc imaginé une chorégraphie complètement nouvelle, tellement nouvelle qu'avec beaucoup de choses au sol, et que c'est à ce moment-là qu'on a décidé, comme les danseurs se roulaient par terre, rampaient beaucoup, etc., qu'on a décidé de mettre des linoléums sur le parquet de l'opéra, qui étaient des planches avant, très inégales souvent. Et c'est à partir de Tour en Galila qu'on a mis du linoléum et que les danseurs ont pu avoir enfin un plateau à peu près égal, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Donc il a vraiment fait bouger les choses avec Tour en Galila. Alors le problème, c'est que quand on a voulu remonter, il y a eu des tentatives, on a voulu remonter Tour en Galila, et finalement, c'était pas tellement possible parce que les créateurs se rappelaient plus très bien et lui-même se rappelait plus très bien la chorégraphie.
La deuxième, voilà. Mais en dedans, là, tu es trop en dehors. C'est-à-dire, papam et la jambe gauche. Hop ! Et tu vas pas assez bas. Tu devrais vraiment aller jusqu'à genoux et tirer ta jambe droite comme si tu tirais une traîne. Voilà.
Oui, vous me disiez, vous étiez voisine en fait de Roland Petit, Zizi
oui,
Jean-Mère, ici dans le quartier.
J'habitais Lens de Mal-Dormé et ils avaient une superbe villa là dans Lens de Mal-Dormé qui était cachée par à côté du petit Nice. Et moi j'habitais dans le même quartier. Donc je savais où était cette villa et je savais que c'était ces personnages mythiques qui étaient dans cette villa. J'avais vu Zizi Jean-Mère danser au TNP quand j'étais enfant. Après, je n'étais plus enfant et un jour, elle a redonné un spectacle ici à Marseille, donc je l'avais vue à Paris. Et je suis allée la voir, elle faisait son truc en plume sur la scène de l'Opéra de Marseille. Pour moi, c'était des gens prestigieux, c'était un couple. un couple d'artistes, ce qui est assez rare, parce qu'en général, c'est l'un des deux qui est artiste et l'autre qui suit. Là, c'était pour moi un couple mythique, un peu comme Elsa Triolet, Aragon, des choses comme ça. Vous voyez, c'était un couple d'artistes qui avait fait école à Marseille. Bon, c'était quelqu'un de prestigieux au niveau aussi de son groupe de danseurs de l'opéra qui était le ballet Roland Petit. C'était quelque chose d'important. Et j'étais contente de cette femme qui s'appelait Jean-Mère, qui était un modèle de volonté. D'esthétique aussi. Hein, c'était des gens qui avaient un très grand sens de la beauté. Donc on était très contents de les avoir dans le quartier.
En 1972, Roland Petit prend la direction du Ballet de Marseille. Le maire, Gaston Defferre, et Edmond de Charleroux le soutiennent. Pendant 26 ans, Roland Petit fait le tour du monde avec sa compagnie. C'est avec les Pink Floyd, dans une salle des sports, la salle Valier, qu'il crée son premier ballet. Les Marseillais, des cités au beau quartier, sont présents.
Je crois que je suis en train de construire une chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, c'est-à-dire un instrument de travail qui va aller en se perfectionnant. J'espère bientôt nous aurons une des meilleures troupes qui soit. Enfin, je suis de qualité internationale. Nous avons quelques très bonnes danseuses, mais nous avons surtout une équipe masculine qui est absolument hors série, dont un nouveau danseur qui vient de se joindre à nous, qui est un garçon qui n'est pas encore connu, mais qui est absolument prodigieux et qui, je crois, va faire des étincelles, qui s'appelle Rudy Briance. Et qui danse dans le ballet des Pink Floyd, le rôle masculin principal. Alors vous me demandez si je suis content, je suis très content. Et il est évident que c'est un long voyage, une longue affaire. On ne fait pas une troupe de ballet en 15 jours. Il faut que les danseurs aient l'habitude de travailler ensemble. Il faut devenir une grande équipe. Et comme vous le savez, c'est la même chose dans le sport, dans tout. C'est une chose qui prend du temps à construire. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin.
Au Ballet National de Marseille, Mireille Bourgeois.
Alors j'ai ici un livre de photos des époques du début à peu près, ou des années 80 du Ballet National de Marseille, Roland Petit. Et là, il y a une photo de l'ancienne salle où vous entraîniez.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette photo?
Elle m'évoque un endroit extraordinaire, où il y a eu tellement de créations de ballets en tout genre, une richesse incroyable. Roland Petit était un magicien qui savait raconter des histoires ou des ballets abstraits aussi. Dans cette salle qui est magnifique, tout en bois, avec ses immenses baies vitrées qui laissaient filtrer la lumière, le soleil de Marseille, on a vu défiler les plus grandes stars. Karen Kane du ballet du Canada, Louis Parraio. Il y avait aussi les étoiles dites de la maison qui étaient de très beaux danseurs comme Rudy Briance ou Denis Gagnon. Il y a eu ensuite Luigi Bonino, le très jeune Jean-Charles Gilles, on était à peu près du même âge. Il y a eu Elisabetta Terrabust, il y a eu des étoiles de l'Opéra de Paris comme Ghislaine Desmar, Noé Lapontois. J'en oublie beaucoup. Il y a eu Michael Denard aussi, quand on a fait les intermittences du chœur. Il y a eu plus tard Peter Schorfus, qui nous a donné la Sylphide, d'un ballet romantique. Il y a eu Baryshnikov, pour qui Roland Petit a créé la Dame de Pique. Et puis plus tard, il y a eu la très belle Dominique Calfouni, cette danseuse si poétique, si belle. On passait d'un ballet à l'autre, quoi. On passait d'une tournée à un filmage, d'une saison à Marseille, à l'Opéra de Marseille, après on partait en tournée, on venait, on s'arrêtait jamais. Pendant un mois, on partait en tournée en France, après on partait en Italie, après on revenait, on travaillait Proust. On passait de l'Arlésienne au film du Pas de Deux de Pink Floyd, par exemple, on filmait le ballet entier. On entamait Casse-Noisette. En mai, Le Loup. En octobre, on partait en tournée. Après, on préparait la saison à Londres, où j'ai dansé Coppelia pour la première fois à Londres. Après, on passait au Grand Échiquier. Après, novembre-décembre, Casse-Noisette. Après, on partait au Japon, faire Le Loup, Coppelia. Après, on allait au Théâtre de la Ville. Après, on faisait Cyrano de Bergerac. Après, on reprenait l'Arlésienne. Après, enfin, c'était sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On est allé un peu partout.
Là, il y a à nouveau dans le même livre, sur le Ballet National de Marseille, Roland Petit, une photo de vous dans Coppelia. Vous avez un sourire radieux. Elle vous évoque quoi, cette photo ?
C'est des souvenirs de danser avec Monsieur Petit dans le deuxième acte, d'avoir sa présence, sa bienveillance, d'être pénétré par son charisme, son jeu théâtral qui était toujours d'une justesse incroyable. Ça reflétait l'esprit français. Je trouvais qu'il avait vraiment le chic, l'art de porter la danse au niveau international, de porter la France, je dirais, moi qui ne suis pas spécialement patriotique. Dans n'importe quel ballet, et même dans les classes, quand Roland donnait un conseil, les choses devaient être habitées derrière. C'est-à-dire, il nous disait « glisse », il donnait une texture « glisse », « lèche le sol », trouve la sensualité dans ce pas avec tes pieds. Il avait une façon de nous permettre de trouver, à travers ce qu'on était, hein, de simples danseurs, il nous donnait ce goût de la recherche des nuances, des contrastes, de que veut dire ce pas. Il nous donnait la direction pour habiter les pas, pour leur donner une intelligence. Il travaillait beaucoup dans les déhanchés, les pertes d'équilibre, puis il avait beaucoup de tracés au sol, il disait toujours lécher le sol, c'est-à-dire que tous ces dessins que vous voyez au sol, là, que les danseurs font en dansant, il avait vraiment ça dans sa chorégraphie. Il avait aussi l'en dehors et la parallèle, en dedans, en dehors. Il vraiment jouait avec ça. Et il avait beaucoup de déplacements avec par exemple pour les sauts, je pense à l'Arlésienne, quand le danseur fait son manège final avec des jetés ou des diagonales, il glisse sa pointe au sol et vraiment il utilise ce glisser. Et en fait, il avait beaucoup de rapports à la terre, au sol. Les sauts, très souvent, c'est dans les ballets classiques, l'accent est en l'air, dans la suspension, dans le décollage, dans l'élévation. Et lui, il jouait justement ce qui est jazzy, ce qui est plus dans le sol et dans son centre.
Je devais avoir une vingtaine d'années, 19 ans, 19 ou 20 ans.
Nicolas Lurich.
Et j'avais la chance de faire une pièce extraordinaire de Roland qui s'appelle « Les forains ». Et à la suite de la répétition, Roland vient me voir et me fait « Nicolas, vous savez, on donne le jeune homme et la mort, vous devriez demander à le danser. » Et donc, il me fait répéter sur scène, ça se passe très bien, je danse le jeune homme et la mort. Et depuis, après, nous avons travaillé, retravaillé à nouveau ce jeune homme ensemble. Roland a été vraiment formidable. Un jour, il vient me voir en me disant « Bon, Nicolas, maintenant vous connaissez la chorégraphie, je veux que vous inventiez les pas. » Voilà. Et alors ça, pour un interprète, c'est du pain béni, parce que il vous donne toute la licence de réinventer cette chorégraphie devant lui. Donc, du coup, toutes ces valeurs ont été travaillées. Et ce ballet a été travaillé, et il a été créé comme cela, sans musique. Et c'est simplement à la fin des répétitions qu'on venait mettre la passacaille de Bach. Donc au tout départ, le jeune homme et la mort a été créé sur des airs de jazz. Et puis c'est juste à la fin où il a rajouté la passacaille de Bach là. Donc en fait, toutes les valeurs ont été travaillées, retravaillées. Donc tout ça est vraiment adapté, c'est vraiment du sur-mesure. C'est comme un vêtement qui est taillé sur vous. Alors très concrètement, il y a un moment où il y a un manège avec des grands jetés, avec différentes versions qui ont existé avec Roland Petit. Une fois, c'est un jeté avec deux pirouettes. En ce qui me concerne, la version, c'était deux tours en dedans, deux tours en dehors, 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 trois tours en dedans, fini. L'autre version étant « Jeter fini quatrième, deux pirouettes en dehors. Jeter quatrième, deux tours en dehors. » Ce qui est tout à fait différent.
Le Guépard, ça a été créé où, en fait, cette
le Guépard a été créé au Ballet de Marseille. Tout d'abord, il a été créé à Palerme. Et puis ensuite, il a été donné... nous avons fait tout le tour de l'Italie avec le Guépard. Il a été créé avec Dominique Calfouni, qui était sa muse à ce moment-là également. Et puis ensuite, nous sommes venus à Paris. Enfin, on a beaucoup voyagé avec.
C'était vous le Guépard.
Tout à fait. Oui, c'était vraiment son challenge. Il me dit, mais ça va être formidable, Nicolas. Écoutez, voilà, vous allez apparaître comme un jeune Guépard qui est là, magnifique. Et puis vous allez faire une variation très virtuose. Et puis vous allez ressortir de scène et vous allez rentrer. Et là, vous serez un vieil homme. Et donc, c'est ce qui a été mis en place. Le livret a été adapté par Edmond Charleroux. Une des choses qui m'a beaucoup marqué chez Roland, s'il était très curieux et très demandeur de l'interprète et de ce que l'interprète pouvait donner pour sa chorégraphie, il était d'une précision extrême dans sa danse. C'est quelque chose de très très précis à chaque fois. Si un pied était en dedans, il souhaitait qu'il soit réellement dedans. S'il était parallèle, il était vraiment parallèle.
Vous savez, en fait, moi je suis d'origine espagnole et les Espagnols vivent l'instant comme ça. Et ce que je trouvais chez Roland Petit, d'ailleurs il a beaucoup puisé chez Bizet, qui a révélé, je pense, aux Espagnols, au travers de Carmen, leur propre musique.
Sandrine Rossignol.
Ça ne m'étonne pas qu'il ait autant était proche de cette œuvre de Bizet, parce qu'il y a cette immédiateté de l'instant, de cet espace-temps, et qu'il transcendait toujours, même avec, au moment où on s'y attendait le moins, comme un feu d'artifice, avec un brin d'humour, au moment où un tour de passe-passe, comme ça, au moment où on s'y attendait le moins.
Quand on parle de création, je crois que dans mon cas, c'est peut-être le cas de tout le monde, c'est chaque fois différent. Une fois c'est la musique, j'entends une musique. Un jour j'ai entendu l'Arlésienne que je ne connaissais pas en suivant sur un merveilleux disque dirigé par Karajan. J'ai entendu, et en entendant la musique, j'ai fait le ballet dans ma tête. J'ai vite pris un morceau de papier, un stylo, et puis j'ai remis le disque et je suis arrivé à la fin sur la dernière note quand il se jette par la fenêtre, comme dans la nouvelle, et j'avais fait le ballet. Le disque, une fois entendu, avec la feuille de papier une seconde fois, le ballet était fait.
Oui, pour lui, la musique, c'était très très important, parce que, et lui, c'est un chorégraphe qui arrive, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme chorégraphie. Il met la musique et il commence à danser.
Luigi Boni.
Jamais de cahier ou quoi que ce soit. Il écoutait la musique avant, chez lui. Il savait, il avait une idée de générale de son ballet, mais pas de la chorégraphie. Ça, il savait, il voulait voilà, que quelqu'un rentre d'un côté, l'autre rentre d'un côté. Ça, avec cette musique, il y a les corps de ballet. Avec cette musique, c'est un pas de deux. Cette musique-là, c'est une variation, mais il ne savait pas, quand il rentrait dans le studio, il ne savait absolument pas qu'est-ce qu'il allait faire. Pas du tout. Il dansait, il écoutait la musique et il faisait. Donc moi, je comprenais et je lui faisais voir tout de suite après. Il disait, oui, c'est très bien, faites comme le petit Italien, parce qu'il m'appelait pendant 2 ou 3 mois, il m'a appelé le petit Italien. Il aimait beaucoup les gens qui apprennent vite, quoi. Voilà. Il aimait pas attendre. Il fallait aller vite. C'était pour moi, c'était les plus beaux moments que j'ai passé avec lui. C'était vraiment un rêve, un bonheur.
Roland était amoureux de ses danseurs. Il avait vraiment des gens avec qui il a toujours eu une belle histoire. Voilà, une belle histoire d'amour, je pense. Et même de guerre, parce qu'il nous faisait la guerre. Mais c'était important. Il m'a tout de suite donné mes défauts et mes qualités. Et Monsieur Petit, il te disait quand c'était vraiment nul et quand c'était vraiment bien. Donc, il pouvait te dire que tu étais hors sujet, que tu étais atroce, que tu n'avais pas le travail. Tu pleurais pendant des heures et il n'en avait rien à faire, mais... Il était dur pour avoir un niveau exceptionnel. Ça te fait grandir énormément.
Je n'aime que les petits groupes. Je n'aime surtout régler que pour les petits groupes. Et quand je fais des ensembles, il m'est arrivé d'en réussir quelques-uns. Ça n'est pas ce qui me passionne le plus. J'aime travailler vraiment avec des gens très, très, très proches. Et quand il y a beaucoup de monde, quand vous êtes avec 60 danseurs, vous êtes tout de même devant quelque chose qui est un peu abstrait. Tandis que quand vous êtes devant deux danseurs, vous pouvez les sculpter comme un sculpteur fait son œuvre. Je veux dire, vous les touchez, vous les pétrissez, vous les faites avec vos mains. Alors c'est beaucoup plus passionnant pour moi.
La chance de Roland, c'était une curiosité extrême pour tous les arts. C'est quelqu'un qui était d'une grande culture. Donc il a toujours été inspiré par les danseurs, en fait. Tout à coup, il y avait une période où il était passionné pour tel danseur. Il allait faire 2, 3, 4 ballets pour tel danseur ou telle danseuse. Il a fait beaucoup de ballets pour Dominique Calfouni, qui a été une très grande interprète. Le Guépard, il l'avait vraiment fait pour Nicolas Le Riche. C'est vrai, il avait un petit peu tendance pour les danseurs à prendre, à utiliser et à acheter. Il y avait une grande période d'admiration. Et puis après ça, non, c'était terminé. Quand c'était fini, c'était fini. C'était facilement le mépris assez total.
Moi, je suis très, très, très attaché à ces moments que j'ai passés avec Roland, qui a été, d'une certaine manière, mon père de la danse. C'est vraiment comme ça que je ressens cette relation sur le très long terme que j'ai eue avec Roland, puisque nous avons collaboré durant une vingtaine d'années avec différents projets. Des ballets qui ont existé et que nous avons repris, mais aussi des créations. Je pense à Camera Obscura, je pense à Clavigo, qu'il a créé pour mon épouse et moi-même, je pense au Guépard, et puis à tous ces ballets, encore une fois, que nous avons travaillé ensemble et qui existaient déjà. Au-delà d'être un très bon chorégraphe, c'était un scientifique de la danse, un maître du pas de deux. Lorsque l'on regarde ses ballets, on voit avec quel génie il arrive à faire naître ses personnages et à nous faire comprendre ou à nous accompagner dans les narrations. Je pense au Fantôme de l'Opéra, qui est un ballet absolument magnifique. Je me souviens d'aller le voir en lui disant « Roland, je viens de lire les 12 Césars de Sueton, faites quelque chose là-dessus, j'ai pensé à vous pendant tout le bouquin, franchement, c'est vraiment fait pour vous. Ah, mais non, vous trouvez, oui, oui. » Alors je lui dis « Mais Caligula, c'est fait pour vous, je le sens. » Il me dit « Écoutez, j'ai une idée, voilà. Alors Caligula, en fait, ben, c'est vous qui allez le faire. Et puis moi, je suis là à côté de vous et je vous aiderai. Hein, je serai votre assistant. » Et toutes ces conversations qui étaient d'une fraîcheur absolument extraordinaire montrent, je crois, quelle ouverture, dans quel état d'ouverture d'esprit il pouvait être. Il était comme une éponge de son temps.
En 1998, Roland Petit quitte Marseille et le ballet. Il s'installe à Genève. Il crée et remonte ses chorégraphies entre Paris, Tokyo, Moscou et Milan. Il meurt en 2011.
Mais mon rôle, c'est de porter l'œuvre de Roland Petit, mais comme il la faisait lui. Voilà, moi j'essaye de faire ce que lui voulait exactement, pas seulement les pas, donner les intentions, l'histoire et tout, parce que tous ces ballets, c'était pas seulement la technique, que c'est très très important, et il avait sa technique, c'était très difficile pour tout le monde, pour les danseurs classiques. Vous savez, moi, j'ai vécu avec lui, à côté de lui, 35 ans. Donc, je sais exactement ce qu'il voulait et comment il le voulait, quoi. C'est pas toujours facile, mais j'essaye, voilà, de faire ça. Et donc, c'est une grande responsabilité. Mais je sais qu'il est à côté de moi et... Voilà, pour moi, il est toujours là.
Comment expliquer qu'aujourd'hui, on le perçoit plutôt comme désuet dans le monde de la danse, Roland Petit ?
Pour une raison très simple, tous les chorégraphes, la plupart des chorégraphes actuels, ne connaissent pas ce qui s'est passé avant eux, et tout ce qui s'est passé avant eux est désuet et dépassé. Alors ça, c'est ils ont généralement rien vu, ils connaissent pas, ils font souvent des choses très belles quand même, mais grosso modo, ça les intéresse pas. Donc il y a pour moi un signe qui est tout à fait beaucoup plus positif, c'est que, vous savez qu'il y a tous les ans un concours de promotion à l'intérieur du corps de ballet à l'Opéra de Paris. Systématiquement, les danseurs ont à danser une variation imposée, qui est une variation du répertoire, et une variation choisie, qui choisissent dans le répertoire. Eh bien, il y a énormément de jeunes danseurs, à tous les stades, tous les grades, qui choisissent des variations du ballet de Roland Petit. Donc ils ont tous envie de danser du Roland Petit. Et on danse encore actuellement, partout dans le monde, des ballets de Roland Petit.
C'était le grand jour de l'inauguration de l'école. Alors étaient présentes toutes les personnalités, ainsi que le ministre de la Culture, M. Jacques Lande, autrefois, qui était parmi nous donc ce jour-là. Et j'arrivais directement de l'école de Rosalie Ritauer. En fait, non, plus exactement, je venais de prendre un cours avec mon cher maître Gabriel Teller, donc à Nice, qui m'avait préparé un petit peu avant. Et donc j'étais perdue sur l'autoroute et j'ai fait sans doute une manœuvre interdite. Et il y avait la police pas loin, donc 4 policiers en moto. Alors évidemment ils s'approchent, ils me disent: mais mademoiselle, que se passe-t-il donc? Eh bien je leur dis: écoutez, je suis très pressée, je dois être très exactement dans un petit quart d'heure à l'inauguration de l'école de Monsieur Roland Petit et des ballets de Marseille, et je dois me dépêcher et je suis perdue. Ah, alors si c'est pour Monsieur Roland Petit, ce n'est pas pareil, mademoiselle, on va vous accompagner. Et j'ai été littéralement escortée par ces 4 policiers en moto jusqu'à l'entrée de l'école, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et tellement révélateur de cette popularité de Roland Petit. Et voilà, j'ai jamais oublié cette arrivée.
Je veux dire, les gens de Zizi Jeanmaire, son truc en plume rose qui s'ouvrait, que j'ai vu à plusieurs époques de ma vie, parce que puis cette vieille dame qui redansait avec des jeunes gens autour d'elle à la fin de sa vie et qui n'était pas ridicule. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai vu Zizi Jeanmaire danser son truc en plume, elle devait avoir 70 ans ou plus, et moi j'en avais 40, donc j'aurais pu la trouver complètement ringarde. Oui. Mais elle était fidèle. Certainement fidèle à une histoire. Bon, moi je la connaissais pas bien, cette histoire. Mais c'était quelque chose de beau. C'était comme un petit joyau qu'on avait dans le quartier. Voilà.
Merci.
Bonne journée.
Il faut que tu plonges en avant. Il ne faut pas seulement, quand tu as fait tes 2 tours en l'air, il ne faut pas seulement que tu fasses ça, il faut vraiment que tu fasses tes tours en l'air et que tu plonges en avant. Il faut vraiment que tu donnes l'impression d'aller loin. Il faut vraiment que tu... Comme si tu posais les banderilles sur le taureau. Oh, si je pouvais encore le faire, qu'est-ce que ce serait bien. Mais enfin, il le fait très bien, il n'y a pas de problème.
Me v'là, te v'là, nous v'là.
Écoute là-dedans mon cœur qui bat. Je sens souvent,
tu dis,
combien je t'aime, mais n'y peux rien.
Tiens.
Roland Petit, tiens, j'ai dansé sur les flots. Un documentaire de Sandrine Joran et Ghislaine David. Avec Gérard Manoni, Nicolas Leriche, Eleonora Abagnato, Mireille Bourgeois, Sandrine Rossignol et Luigi Bonino.
Parfois je suis sans voix.
Et moi.
Avec les voix de Zizi Jeanmaire et Roland Petit. Recherche INA, Annie Lozana. Prise de son, Arthur Gerbeau et Philippe Etienne. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Claire Poissignon et Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Dans quelques instants, Le temps des écrivains et la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, le peintre Cy Twombly.